Bonjour, merci d'être là. Donc en fait, dans le cadre de ce séminaire, moi j'ai choisi de donner ce titre, l'anonymisation des données en génétique humaine, donc il est assez focalisé, mais à propos de ça, on pourra considérer un certain nombre de questions et se demander si c'est toujours d'actualité ou si on a finalement dépassé ce concept d'anonymisation. Alors ce que je vais faire, plus ou moins, c'est là. Je vais d'abord évoquer les changements dans le domaine de la génomique avec l'évolution scientifique, me concentrer un petit peu sur les données de séquençage qui sont ce vers quoi on tend pour toute une partie de la recherche dans le domaine de la génomique, et également vers le passage en clinique qui est en train de se faire. Et finalement, voir quel est le contexte, les dimensions éthiques qui se posent. Et puis je donnerai quelques exemples de débats actuels. Alors, ce séminaire, il tombe dans l'actualité, enfin un certain nombre d'actualités, et en particulier dans une actualité juridique qui est celle de la révision de la directive européenne sur la protection des données, en abrégé, et qui est en train d'aboutir à un nouveau règlement pour lequel il y a déjà eu des votes, mais ce n'est pas tout à fait fini. Donc on en est là, et d'où cette idée d'anonymisation et de se poser des questions, parce que le fait d'être anonyme ou de ne pas être anonyme, c'est quand même des piliers dans cette législation. Il y a tout un tas de questions qui se posent sur l'utilisation des données de séquençage en recherche, et puis donc pour le passage de ça dans le domaine de la clinique. Alors ça, c'était juste pour vous expliquer les étapes juridiques au niveau européen où on en est pour le moment. Il y a eu un nouveau règlement qui a été proposé en janvier 2012, qui ensuite a fait l'objet d'un nombre d'amendements qui ont été votés par un comité du Parlement européen en octobre. Et puis, il y a eu un premier vote dans le Parlement européen au mois de mars. Il passe le ballon au prochain Parlement européen qui sera après les élections qu'on va faire, les élections européennes en mai. Et on verra ce qui se passe après. Donc, on est entre deux. Alors, les données génétiques dans ce nouveau règlement, elles sont reconnues comme appartenant aux données sensibles de façon explicite. Avant, il y avait des données sensibles, mais c'était écrit que les données génétiques faisaient partie des données sensibles. Maintenant, en principe, ça sera écrit. On est en face de possibilités de réidentification à partir de données génétiques. Je donnerai des exemples tout à l'heure. On est aussi dans l'idée, quand on génère beaucoup de données, quand on séquence, quand on fait des études sur les génomes entiers, on génère beaucoup de données sur une même personne, de se demander si on a des devoirs particuliers parce qu'on génère ces données pour en faire quelque chose, autre que les thématiques de recherche, par exemple, ou le problème clinique qui a motivé la consultation. Et puis, est-ce qu'on est dans le même enjeu, en fait, dans le même cadre, quand on demande un consentement à quelqu'un pour un test, soit en clinique, soit en recherche, pour quelque chose d'assez ciblé, qu'on peut décrire, ou quand on dit « on va vous étudier tout le génome ». Est-ce que ça va encore dire quelque chose, un consentement éclairé, jusqu'où on peut éclairer dans ce contexte-là? Alors, j'ai un certain nombre de diapos qui sont en anglais. Je vous prie de m'excuser, mais comme je suis une grande flemmarde, quand je les avais en anglais, je ne les ai pas traduites en français, en me disant que vous comprendriez tous. Donc, en fait, ce changement d'échelle là, qui s'est produit récemment, ou qui est en train de se produire, il fait passer, du point de vue de la recherche, d'une recherche qui est basée sur les hypothèses, où finalement c'est pour éprouver une hypothèse qu'on génère des données, à une génération de données systématiques à partir desquelles, en faisant de la fouille de données, on va, à un moment donné, générer des hypothèses. Et c'est un peu la même chose qui se passe en médecine. Une médecine assez orientée, où on apprend, enfin moi quand j'ai fait la médecine, parce que je suis médecin à la base, on apprenait l'examen clinique, les examens complémentaires, et quand on demandait un examen complémentaire, on savait que ça pouvait donner ça, 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 ça ou ça, et on avait tout un arbre de décision pour arriver au diagnostic. Maintenant, quand on part sur « on va étudier le génome », c'est plus tout à fait la même chose, et on a une médecine qui est aussi basée sur d'abord des données. Et donc, alors cette diapositive, elle est faite pour illustrer un peu les changements récents qui se sont produits. Pendant très longtemps, dans la recherche et dans la médecine aussi, on travaille sur des échantillons biologiques. Et on a eu beaucoup de discussions sur ces échantillons, comment on va les organiser, comment on va les garder de qualité, comment on va les protéger, comment on va gérer leur accès, etc. Donc on était assez orienté sur les échantillons. Et dans les années qui viennent de s'écouler, et actuellement, on est beaucoup plus sur les enjeux liés aux données qu'on génère à partir des échantillons. On était aussi dans une espèce de temps qu'on pouvait définir. On va faire de la recherche avec ces échantillons sur tant de temps. De toute façon, ils s'épuisaient au bout d'un moment, les échantillons. Alors, on ne se posait pas la question du long terme parce qu'il n'y en avait plus dans les congélateurs au bout d'un moment. Sauf que tout s'est tellement miniaturisé et qu'on peut faire tellement de choses avec très peu de matériel que finalement, maintenant, on est dans un temps dont on ne voit pas la limite, où on peut utiliser et générer des données à partir des échantillons. Le fait de faire des tests ciblés sur une partie du génome, dans le cadre de la génétique ou d'étudier des génomes entiers, j'en ai déjà parlé. Et finalement, les usages à la fois des échantillons et puis des données qu'on génère, d'un monde où on savait les définir, on passe à un monde où on a généré des données pour des usages multiples qu'on ne sait pas forcément définir. Et ça pose problème aussi dans le cadre de ce qu'on appelle la protection des données, où on doit garder des données quand elles sont identifiantes, de façon limitée dans le temps, pour des usages définis, enfin bref, pour faire tout ce que je suis en train de vous dire qu'on ne peut plus faire dans la réalité. La notion d'équipe aussi, qui était, on faisait de la recherche avec sa petite ou moins petite équipe, ou avec des collaborations qu'on définissait, et maintenant on est dans du partage au niveau international assez largement de données. Il y a des tas de problèmes techniques liés à ça, mais l'idée de partager, parce qu'on ne peut répondre à des questions qu'en mettant ensemble des grands ensembles de données, ça existe dans le tous les jours d'aujourd'hui. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure de la limite un peu floue qui se crée entre la clinique et la recherche dans ces domaines de la génétique. Et puis, cet aspect de générer des bases de données ou de générer des collections d'échantillons, c'était souvent des activités à côté de l'activité principale d'un médecin, d'un service, d'un laboratoire. Bon, ben, on avait besoin des échantillons, alors on les gardait, et puis au bout d'un moment, on avait des collections. C'était une espèce d'activité dérivée. Et maintenant, ça devient une grosse activité stratégique qu'on met en avant. Il y a des collections nationales, les bases de données, c'est un élément de puissance, en fait. Celui qui a la grosse base de données, ben, il est mieux placé que les autres dans la science et dans la médecine. Donc on voit bien qu'il y a des jeux de pouvoir aussi qui changent avec cette arrivée des données. Et finalement, ces ensembles d'échantillons et de données, ça devient des vraies infrastructures de recherche ou des infrastructures nécessaires à l'exercice clinique, à l'interprétation des données. Donc, tout ça pour vous dire que ça change et que le cadre classique qui est un peu décrit là-dessus, qui est un cadre de recherche clinique, où on demande un consentement éclairé, où on va générer des données et garantir leur anonymat et les garder pendant un certain temps, où on demande des avis avant de commencer les choses, puis après, une fois qu'on a l'avis, bon, mais on réalise ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et puis, il y a la religion, entre guillemets, de la non-communication de résultats individuels non validés, c'est-à-dire des résultats de recherche, on ne les communique pas parce qu'ils ne sont pas validés, ils ne sont pas faits dans les conditions de l'exercice clinique, et c'est assez standard, disons, comme attitude. Et là, on sait si on est dans la recherche ou si on est dans la clinique. On sait faire la différence. Et avec tout ce que je viens de vous raconter, et en plus l'idée de open access, partage des données qui court un petit peu partout, on a des données qui changent de statut, qui de non identifiantes deviennent identifiantes, qui sont cliniquement utiles ou non, et puis qui n'étaient pas cliniquement utiles parce qu'on ne savait pas les interpréter, mais qui deviennent cliniquement utiles quand on a un peu plus de connaissances sur le domaine. Donc vous voyez que ces trucs qui étaient bien catégorisés, on est en train de flouter les frontières avec ce que j'ai appelé une porosité entre clinique et recherche. Alors, qu'est-ce que ça change, cette large échelle de la production des données? Le séquençage en clinique pour répondre à un problème donné, quand on fait du séquençage large sur le génome, on génère des données, utiles pour le patient, mais certainement aussi utiles pour la recherche, mais pas pour un protocole précis. Cette idée est basée sur le fait que des données générées sur un patient, donc avec une motivation clinique au départ, et confrontées à d'autres, ou mises ensemble dans des bases de données, vont permettre de valider des variations dans le génome par rapport à leur signification clinique ou pas. Quand on fait toute une étude sur le génome, ben on trouve des variants par rapport à des séquences de référence. Ces variants, on ne sait pas forcément s'ils ont une signification par rapport à des états pathologiques ou pas. Et c'est en accumulant ce genre de choses dans des bases de données que finalement, on arrive à générer de la connaissance. Mais on met aussi à jour des informations de santé qui sont potentiellement utiles pour la personne au cours d'une recherche ou en effet secondaire au cours d'un examen clinique. Et ça, on sait quand on étudie tout le génome que ça va se passer de façon systématique. On va toujours en trouver. On sait tous qu'on a dans notre génome des éléments qui nous, soit qui carrément permettent de faire un diagnostic de quelque chose, soit on est porteur d'une mutation qui, si elle en rencontre une autre de la même catégorie, générera une pathologie, soit qui donnera une susceptibilité à des maladies. On en a tous plein. Et là, quand on étudie un génome, on sait qu'on va trouver ces choses-là si on les regarde. Et alors ça génère plein de questions sur lesquelles on va revenir. Donc on constitue des bases de données au long cours, qu'on va garder longtemps, qui sont issues à la fois de données de recherche et de données de clinique. Alors ces données, est-ce qu'elles ont la même qualité? Comment les mettre ensemble? Il y a tout un tas de problèmes d'ordre technique. Et puis il y a cette idée qu'on fait une base de données qui va servir à la fois pour la recherche, à la fois pour la clinique, et qui est issue de données venant à la fois de la recherche et à la fois de la clinique. Ce n'est pas courant en fait, ces situations-là. Donc c'est de nouvelles situations. À partir de très peu de données, en plus des données de séquence, on s'est aperçu, je vous donnerai un exemple d'un article tout à l'heure, que finalement on pouvait réidentifier des personnes. Et on finit par se dire, mais quand on peut faire tout ça avec des données de séquence, est-ce qu'on doit faire un consentement spécifique? Alors, il y a plein de gens qui sont concernés par ces questions. D'abord les patients, ou quand il s'agit de recherche, les participants aux recherches. Est-ce qu'ils ont droit à toute information générée à partir de leurs échantillons? Parce que c'est un droit. En principe, oui, on a droit à toute donnée générée sur soi-même. À de l'information accompagnée de son interprétation, donc déjà, on ne sait pas tout interpréter, donc ça limite. Ou est-ce que ce droit, il est à toute information utile pour la personne? Et si c'est ce cas-là, qui c'est qui décide si c'est utile ou c'est pas utile? On n'a pas tous forcément la même vision de ce qui nous est utile. Et quand on donne ces résultats, données interprétées, qu'est-ce qu'il faut mettre avec comme accompagnement? Et est-ce qu'on arrivera à mettre ça en place, effectivement, dans le système de santé ou, disons, le croisement entre système de recherche et système de santé? Alors, les professionnels de santé, eux, ils se trouvent à avoir à conseiller, puisqu'ils font conseils dans le domaine de la génétique, dans des situations complètement variées. Ils ont à gérer de l'information qui est produite à un moment donné où on ne sait pas si elle sera utile un jour. Et on se demande quelles sont les conditions, en fait. Est-ce qu'on peut se fixer des règles pour prescrire ce type d'examen large? Et donc là, il y a des recommandations au niveau national et international qui se font pour le moment. Les chercheurs, eux, ils peuvent, entre autres, se poser la question de savoir quels critères on a pour considérer qu'une information devient pertinente et utile et qu'en fait, on ne peut pas la garder, qu'il faut la retourner, alors directement ou via des médecins, vers les personnes concernées qui, au départ, sont venues là pour de la recherche. Et les autorités administratives qui se demandent quel est le bon niveau d'encadrement de tout ça. Alors, je vais vous donner deux exemples d'utilisation non prévue ou non recherchée. Donc, d'abord, dans un cadre de recherche, on parlera de cadre clinique après. Alors, le premier exemple, c'est une utilisation de tests génétiques à la recherche d'une preuve de pureté ethnique. Alors, bon, l'histoire sur ethnicité et génétique, il y en a plein et depuis longtemps. Mais là, il se trouve que c'est assez récent, c'est il y a 2 ans. Il y a un parlementaire, je ne sais pas si j'ai une diapo là-dessus. Bah oui, c'est ce qui est en haut là, en haut à gauche. Il y a un parlementaire européen, on parlait du Parlement européen tout à l'heure, donc un membre de ce Parlement, hongrois, et qui s'est tourné vers un laboratoire de génétique pour qu'on aille rechercher en étudiant 18 positions, donc un nombre de positions sur son génome, pour certifier qu'il n'avait ni d'origine juive, ni d'origine gitane ou rome. Alors c'est sensible là en ce moment, on en parle beaucoup. Alors évidemment, ça a fait débat dans le domaine. Ce qui est là-haut, c'est en fait la position qui a pris tout de suite une réaction de la Société européenne de génétique humaine. Mais il se trouve que cette chose-là existe. Alors, pourquoi j'en parle dans un truc sur Big Data? C'est parce que de plus en plus, quand on a des données larges sur le génome et sur des populations de personnes, on arrive de plus en plus à avoir des marqueurs qui sont précis sur des origines de population. On n'ira pas vous dire vous êtes de tel village, de tel endroit d'Afrique. Mais on arrive de plus en plus, et c'est une donnée, on arrive à caractériser la variation génétique dans des populations, dans des groupes. Alors il y a évidemment toujours de la variation inter-individuelle, mais on arrive quand même à avoir des caractéristiques de groupe. Et donc une utilisation là, qui est un peu stupide hein, sur le plan génétique, de dire je n'ai pas d'origine juive ou rome, mais là-dedans il y a un parlementaire qui dit c'est important pour moi d'afficher ma pureté génétique. Très bien. C'est important et qui trouve un laboratoire qui va lui faire ce test. Laboratoire accrédité qui fait à côté de ça des diagnostics génétiques, etc. Donc vous voyez l'utilisation, on parle de surveillance dans ce séminaire, de données génétiques et dérives qui finalement arrivent hier matin, quoi. Alors bon, ça a été condamné par tout le monde, il a été exclu du Parlement européen, donc il y a quand même eu des réactions assez importantes à ça, mais ça s'est passé. Le deuxième exemple, c'est celui qui est en bleu là, c'est d'une recherche en fait, qui montre que des données de séquence complète sur des personnes, sans éléments identifiants proprement dit associés, croisées avec d'autres données publiques, permettent une réidentification. Alors, il y a 2 articles que je vais citer là-dedans. Un premier, c'est celui qui est en rouge là, hein, c'est la référence dans une grande revue de biologie hein, qui s'appelle PLOS Genetics et qui est paru en 2008. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Et le deuxième, c'est un article de Science l'année dernière. Alors, le premier article dans PLOS Genetics, il a fait revoir, je vous expliquerai après qu'est-ce qu'il y avait dedans, il a fait revoir toute une politique qui s'était mise en place de partage des données, qui était la politique du National Institute of Health aux États-Unis et qui était partagée par le Wellcome Trust en Angleterre, etc. Donc GWAS, ça veut dire Genome-Wide Association Studies. C'est des études sur l'ensemble du génome pour trouver des associations entre des maladies et des marqueurs génétiques répartis un petit peu partout. Il y a eu, ça fait une dizaine d'années, beaucoup de ces études-là, et en particulier utilisant de très grands échantillons de patients, enfin échantillons de patients, de populations de patients, et de populations témoins. Et ce sont des études qui coûtaient cher, donc investissement public pour des choses qui coûtaient cher. La politique derrière ça, c'est à donner public généré avec l'argent public, enfin, données de recherche générées avec l'argent public doivent être mises à disposition du public. Donc il y avait une base de données où tous les chercheurs étaient censés mettre leurs résultats de ces GWAS après quelques mois qu'ils avaient pour exploiter et publier leur premier papier. Alors ce qui s'est passé dans ce papier, vous lisez, regardez juste ce qui est en bleu ici, c'est que finalement les techniques de bioinformatique avait progressé à un tel point que, avec suffisamment de données sur le génome et quelques données sur des individus disponibles dans d'autres bases, c'était possible de déterminer que monsieur un tel, tel individu, en fait, il était présent dans une étude qui était une étude où on avait poulé des données, hein, c'est-à-dire ce qui d'habitude était considéré comme non identifiant, un pool d'ADN, eh ben, avec des données évidemment à partir desquelles on génère, et on arrivait à dire, ah tiens, monsieur un tel, il est là-dedans. Donc du coup, tous ces beaux instituts, National Institute of Health, Wellcome Trust, etc., on dit, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on a fait? On met à disposition du public des données qui, croisées avec trois fois rien, permettent de réidentifier des personnes. On va se faire taper sur les doigts, c'est dangereux, on ne protège pas les gens, etc. Et donc, c'est ce qui était sur, la, sur les diapos d'avant. Ça, c'était la politique mise en place. Hein, des fonds publics résultent dans des données rendues publiques. Il y avait une espèce de base de données centrale qui s'appelle le DILIGAP. Une période de 12 mois pour exploiter pour l'équipe. On déidentifie, parce qu'on pensait encore qu'on pouvait déidentifier. Aux États-Unis, on enlève 12 éléments qui caractérisent l'identification des personnes, et hop, c'est réputé non identifiant. Donc, on avait bonne conscience, on déidentifie. Et on met tout ça à disposition pour que d'autres chercheurs, des personnes, puissent profiter et exploiter ces données. Et en fait, à cause de cet article-là, cette politique a été modifiée. Il y a eu tout un débat, et on a dit, en fait, même pour des données poulées, on va avoir un accès régulé. C'est-à-dire, il va falloir montrer patte blanche, donner son... Vous n'allez plus pouvoir aller sur un site web, décharger ce dont vous avez besoin, faire de la recherche que vous vouliez. Donc, vous voyez un impact direct de la progression des technologies informatiques et de la production de données en masse sur, finalement, des politiques dans un sens. On produit tout ça, il faut le mettre à disposition. Hop, on a un problème, on met un mur de plus. Alors, l'exemple suivant, donc ça s'est adapté, et finalement, on a fait un contrôle, même pour des données qui, théoriquement, étaient réputées non identifiantes. Deuxième article. C'est cet article-là qui est paru dans Science, donc identifier des génomes personnels en inférant le nom, à partir du nom, qui, vous regardez que le but là, le but de ces chercheurs, qui se sont fait critiquer sur un plan éthique d'ailleurs, en disant les gens sur lesquels vous avez, sur les séquences desquelles vous avez travaillé, ils ont donné, et on leur a garanti que, bon, il y aurait certaines utilisations, mais certainement pas l'utilisation pour voir jusqu'à quel point on pouvait les réidentifier. Donc, ils ont demandé des autorisations pour faire ça, ils les ont eues. Mais bon, ça, il y a de la discussion à ce niveau, mais ce n'est pas le sujet, là. Ils se demandaient si, finalement, on pouvait approcher d'une façon quantitative, si on pouvait, à partir des séquences et de l'existence, la distribution, ce qu'on connaissait sur les noms, dans la répartition des noms dans un pays, se servir des deux, en sachant que ce qu'ils ont utilisé, c'est des bases de données de généalogie. Bon, c'est en Islande, c'est un sport national, hein, la généalogie. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux généalogies et qui vont se faire, en tout cas aux États-Unis c'est possible, le test d'un certain nombre de marqueurs génétiques dont ils se servent aussi pour remonter la généalogie familiale. Et on a donc des bases dans lesquelles il y a associé certains marqueurs génétiques, pas tous les l'ensemble du génome, et des noms de famille. Donc à partir du moment où on a une distribution des noms dans un pays, quelques éléments qui permettent de connecter des marqueurs génétiques et des noms, grâce à ces bases, tout ça étant public, ou en tout cas, quelquefois il faut demander l'autorisation, mais enfin, on vous la donne, et où il existe à disposition du public des séquences. Il y a un projet qui s'appelle le 1000 Genome Project, 1000 génomes, où on a fait des séquences de 1000 personnes. Il y a zéro autre information sur eux que le sexe et l'état dans lequel ils étaient. Alors, c'est ce qui, je résume hein, là, ce qui est fait dans cet article, c'est que en se servant, en recherchant dans ces génomes les quelques marqueurs qu'on étudie dans les bases généalogiques, on arrive finalement à dire, tiens, mais ça, c'est associé à tel nom. Et évidemment, ça ne marche pas pour les noms les plus fréquents, parce que quand il y a 350 000 personnes qui portent le même nom, ben, c'est pas très informatif pour les identifier. Mais avec des noms moins fréquents, en ayant juste l'information sur l'état dans lequel, auquel appartenait la personne, son génome et donc la possibilité de regarder certaines positions particulières dans ce génome, on arrive à avoir à établir des probabilités de plus en plus fines que ben, ce génome-là, ça ne peut être que monsieur un tel, ou ça ne peut être que une de ces trois personnes. Et donc, du coup, démontrer que ben, on pouvait finalement, avec très peu de choses, tracer l'origine des gens dont le génome était à disposition dans des bases de données faites pour la recherche, en fait, dans ce cas-là. Donc, dans la vision de ces auteurs, la réponse appropriée à ces problèmes d'identifiabilité ou de vie privée, c'est évidemment pas, ce sont des chercheurs aussi, c'est évidemment pas pour le public de s'arrêter, de participer aux recherches et de donner des échantillons. Et c'est sûrement pas de s'arrêter de partager ces données, ce qui est une façon de faire avancer la recherche. Mais plutôt donc d'établir des politiques pour qui soient claires pour le partage de ces données, d'éduquer les participants, de leur expliquer que ça peut se produire avec les risques et les bénéfices, et puis d'avoir des législations fortes par rapport à l'usage de l'information génétique, qu'elle soit dans des bases de données, qu'elle soit sur des personnes, qu'elle soit... Donc eux font appel à non pas tellement intervenir au niveau des données, de la gestion des données, puisqu'on dit finalement on est là dans le flou plus total, on n'arrive plus à contrôler, mais dans l'usage qui est fait de ces données et qui doit donc pouvoir être au bénéfice des personnes et pas à leur encontre. Alors il y a ce que j'appelle le buzz de l'identifiabilité qui s'est produit, et ça va vous donner quelques exemples aussi sur la stratégie marketing des journaux scientifiques. En haut, vous avez la référence de l'article dont je viens de vous parler. Dans le même numéro, donc janvier 2013, vous aviez News and Analysis, donc une espèce de commentaire de ce papier, court et que tout le monde lit en général. Vous aviez aussi ce qu'ils appellent un policy forum qui se posait la question de la politique à mettre en place en face de ces questions. Donc ça, on voit que ça a été orchestré pour paraître ensemble dans le même numéro. Là, c'est un petit échantillon de ce qui s'est passé dans les 3 mois qui ont suivi, où il y a eu dans Science, dans des revues variées, des commentaires de ces papiers, des points de vue sur toute cette affaire. Donc c'est pour ça que je l'appelais le buzz. Dans la littérature scientifique, et là il n'y a que de la littérature scientifique, il y a vraiment eu du commentaire à ce sujet-là. Et dans le Policy Forum, qui était paru en même temps que l'article initial, ce qui était finalement approché, c'est qu'il est peut-être temps de reconsidérer le fait que la distinction un peu simple entre identifiant et non identifiant, il pose la question en tout cas, est-ce que ça reste une mesure adéquate pour décrire les attentes à propos de la protection en fait des personnes qui participent à ces recherches, puisqu'on voit bien que là on arrivera toujours d'une façon ou d'une autre, si on veut vraiment, à réidentifier. Et donc ils prônent des initiatives de citoyens s'intéressant aux sciences. Ils disent que, donc c'est des Américains qui écrivent là, que le patchwork qui est légal qui existe dans tous les États aux États-Unis, ça rend complètement non lisible en fait ces dimensions-là. Et ils disent qu'il est peut-être temps pour la communauté de recherche ou des chercheurs de s'engager dans une véritable discussion ouverte mais rigoureuse sur cette affaire de l'identifiabilité des données et comment on peut finalement gérer tout ça. Alors on pourra y revenir dans la discussion. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est mon transition vers l'aspect plus clinique, qu'il y a toute un ensemble d'institutions qui s'appelle l'Alliance Globale, le Global Alliance, qui a fait paraître en juin, enfin ça a commencé en janvier, il y avait un white paper qui circulait. Ensuite en juin, l'an dernier, dans Nature, il y a eu vraiment un article où toute cette communauté de génétique pousse pour un partage des données, non seulement des données de génomique, mais aussi des données cliniques, en disant c'est que comme ça, en mettant les phénotypes et les génotypes ensemble, qu'on va arriver à progresser dans la compréhension de la variation génétique et notamment en rapport avec des maladies, et qui finalement pousse pour établir des codes, des bonnes pratiques pour partager les données, mais qu'en même temps que ce soit qui pousse au partage et non pas à la protection plus accrue. Alors maintenant, on fait le saut, donc, en passant par cette alliance globale, où il y a beaucoup de médecins généticiens qui participent, vers finalement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, dans la recherche, toute une partie de la recherche se fait à partir de données et plus à partir d'hypothèses. La médecine prend un petit peu le même chemin, donc c'est ce que j'ai appelé la médecine drivée par les données. Et finalement, ce à quoi on voudrait aboutir, c'est que ce soit une médecine qui soit informée par des phénotypes, c'est-à-dire toujours la partie clinique, hein, bien sûr, et des données interprétables, pas juste un fatras de données. Et c'est ça qui se construit petit à petit au fur et à mesure qu'on apprend à interpréter les données. Alors cette évolution en médecine, elle impacte la pratique médicale, elle impacte l'organisation des systèmes de santé et elle impacte aussi les relations entre les professionnels de santé et les patients. Et je vous disais tout à l'heure qu'elle faisait disparaître, enfin en tout cas qu'elle atténuait la netteté de limites, avec en particulier une consultation clinique qui se fait en général pour un problème particulier et pour laquelle on va faire une exploration générale du génome, ou la recherche et la clinique, je vous ai expliqué, ces bases de données construites à partir des deux, donc ça se floute là aussi. Le protocole de recherche classique par rapport à ce qu'on peut appeler les découvertes basées sur la fouille de données, qui n'obéissent pas à un protocole particulier. Vous ne savez pas quel protocole aller présenter devant quel comité. Vous accumulez des données et vous regardez. On est dans un autre monde que la recherche clinique et qui n'est pas tout à fait aussi bien organisé, disons. Dans le génome, il y a de l'information de santé, mais il y a aussi des tas d'informations qui n'ont rien à voir avec la santé. Et on qualifie tout ça d'informations sensibles et dites de santé. L'aspect élément du corps humain, ben l'ADN, c'est une molécule, hein, et elle est dans les cellules, c'est un élément du corps, quand c'est l'ADN humain. Et l'information, la génétique, c'est de l'information. Donc là aussi, à partir de quel moment on est dans l'information pure et plus dans le corps humain. Et puis la notion d'utilité clinique, qui est un espèce de pilier, là, on donne des résultats quand c'est utile cliniquement, ou finalement la notion d'utilité clinique quand on est dans le prédictif, dans le prévisionnel, dans la susceptibilité, on n'a pas vraiment un moment précis où on peut dire là, pour certaines choses c'est évident, mais pour beaucoup de choses on ne sait pas où mettre le curseur de l'utilité clinique. Et en plus, dans tout le génome, les gens qui vont se chercher sur eux-mêmes des informations génétiques se préoccupent de l'utilité qu'ils y voient eux personnellement et qui n'est pas forcément la vision des médecins. Et il y a une curiosité. Ceux qui vont faire de la généalogie avec leur arbre généalogique, mais aussi de la génétique, c'est de la curiosité pour aller retrouver leur cousin éloigné à l'autre bout de la planète ou autre. Et on n'est pas dans la médecine. Et c'est pourtant de la donnée génétique aussi. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Et là où on avait des catégories discrètes, on crée des continuums en fait, avec cette capacité évolutive d'interpréter un jeu de données qu'on a produit à un moment donné, avec ce caractère identifiant qui évolue au fil du temps en fonction de qu'est-ce qu'on fait de ces données, et aussi en génétique, c'est assez développé, cette notion de, j'ai le droit de savoir et j'ai le droit de ne pas savoir. Mais quand on a tellement d'informations différentes, on n'a pas en général une position globale, je ne veux pas savoir du tout. Mais dans tel cas, je voudrais savoir, dans tel autre, je ne voudrais pas savoir. Et comme on ne peut pas tout décrire, ça devient d'une complexité terrible et on ne sait pas comment, finalement, quelle est la bonne façon d'exercer ce droit de savoir et de ne pas savoir. Alors, on va passer sur tout ça, parce que je ne voudrais pas durer trop longtemps. Alors, ce qui se développe avec ce passage graduel qui se fait de la séquence vers la clinique, comment on va faire face à tout ça? Alors, il y a en Europe une société, la Société européenne de génétique humaine, qui regroupe beaucoup de généticiens de différents pays d'Europe, et qui a émis en mai l'année dernière des recommandations pour justement l'utilisation dans le contexte du soin, de la santé, de la séquence ou du séquençage du génome. Et qui dit qu'il faut établir des protocoles pour savoir quand on va demander ça et quand on ne va pas le demander. Il faut partager ses expériences, parce que finalement, la règle valable pour tout, ça n'existe pas, donc il faut faire un peu des études pilotes et partager les expériences. C'est presque un message extrêmement important, qui reconnaît la nécessité d'avoir des collections d'échantillons et de données. Il faut donc favoriser le fait de les construire. Il n'y a aucun hôpital qui a prévu, enfin en tout cas en France, que les services de génétique clinique, ils allaient construire des bases de données avec les variants qu'ils rencontraient chez leurs patients qui pourraient servir au monde entier. Cette activité-là, elle n'est pas répertoriée dans les missions d'un hôpital. Et pourtant, on dit que c'est avec ça qu'on va pouvoir progresser et finalement... L'hôpital, il sert aussi à faire des données et en faire profiter les autres. Ce qui n'est pas du tout la philosophie de l'hôpital. Et comment on va finalement assurer la sécurité et les moyens pour maintenir tout ça. Alors ça, il y a dans ce papier 11 recommandations. Je vais vous en passer quelques-unes. La première, c'est celle que je vous ai déjà un peu dite, il faut partager les expériences. Il faut faire des expériences, il faut les définir nettement, et puis ensuite les partager, parce que finalement, ce n'est pas clair qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine de la séquence en clinique. Il y a un autre principe qui est, pour l'instant, ce qu'on fait le plus souvent, c'est des tests ciblés sur les gènes qu'on connaît, être associés à une maladie, les zones du génome qu'on vise pour ça. Quand on peut faire du ciblé, c'est mieux. C'est quand le ciblé n'apporte pas la réponse à la question qu'on pose qu'on va prescrire du génome entier. Si on prescrit du génome entier, c'est l'aspect du filtrage, là, on n'est peut-être pas obligé d'aller tout regarder. Et ce dont on ne sait pas interpréter, on devrait l'éliminer de ce qu'on va regarder. C'est cette notion de filtre, en fait. Donc, on génère de l'information et tout de suite, on se dit, il y en a un paquet qu'on ne va pas voir. Donc, c'est étrange comme démarche. Mais, alors, pourquoi on fait tout ça? D'abord, donc, c'est ce que je viens de dire, il faut donc une justification clinique. Ce n'est pas parce qu'on a la capacité de faire du génome entier qu'on va aller faire du génome entier de façon systématique. Et si on le fait, il faut avoir réfléchi, avoir un guide de l'action en face de ce qu'on appelle les découvertes incidentes, les découvertes non sollicitées, les découvertes secondaires, autrement dit tout ce qu'on trouve et qu'on ne cherchait pas. Mais une fois qu'on sait qu'on l'a, il faut y avoir pensé avant pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire et qui doit décider qu'est-ce qu'on va en faire. Et en particulier, il faut développer des guides pour le consentement éclairé. Alors, vous allez expliquer à quelqu'un qui vient avec un problème à résoudre de diagnostic ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, on se demande qu'est-ce que c'est. On n'arrive pas avec les tests qu'on a sous la main d'habitude à définir un diagnostic donné. Donc on élargit à l'ensemble du génome. Ça fait nettement progresser les diagnostics par rapport à la pathologie donnée. Mais en même temps, on va générer plein d'informations qui pourraient vous dire si vous allez avoir une susceptibilité importante pour, je ne sais pas quoi, le cancer du sein, pour qu'il n'y ait pas le problème là. Notamment quand il s'agit de tester des enfants dans le cadre de, par exemple, maladies génétiques de l'enfant. Donc il vaut mieux, effectivement, au niveau du consentement, savoir et clarifier jusqu'où il va y avoir le droit de ne pas savoir, le droit de savoir, et qui a droit à quoi, et qui choisit. Donc ça, c'est paru l'année dernière dans le European Journal of Human Genetics. Juste avant, il y a un collège américain de médecine génomique qui avait fait paraître des recommandations au mois de mars sur ces affaires de découverte incidente, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette information? Qu'est-ce qu'il faut aller regarder et quels résultats rendre? Alors, ce que le collège américain de génétique clinique avait déclaré, c'était que quand on allait faire du génome large, donc tous les exomes ou l'ensemble du génome, les laboratoires devaient systématiquement examiner 57 ou 56, je ne sais plus, gènes particuliers, des positions, en fait, en tout cas dans le génome, et regarder, c'était des positions dont on sait qu'elles génèrent de l'information fort probablement utile en clinique, les regarder et donner les résultats aux patients. Ça a fait des vagues parce que le patient, dans ces recommandations-là, n'avait pas le droit de refuser de recevoir ces informations. Donc, ou il n'avait pas le test, ou il avait le test plus les 57 autres gènes, et il avait établi une liste. Bon, j'en vois qu'ils font la grimace, effectivement, il y a eu des grimaces qui se sont traduites par des débats, des discussions, des articles, enfin plein de choses. Et au mois d'avril, un mois après, le même collège a apporté une clarification en disant « mais ça serait totalement non éthique de ne pas rapporter ces informations-là, puisqu'on sait qu'elles peuvent être utiles cliniquement. » Et ça s'applique aussi dans le cas des enfants. Alors là, ça a commencé à discuter encore plus dans beaucoup de cas. Il y a eu un papier dans Science au mois de mai, deux papiers en fait, qui étaient l'un en regard de l'autre. Un qui disait que donner des résultats de ces découvertes incidentes à des personnes sans leur consentement pour ça, c'était une mauvaise attitude. Et d'autres qui disaient, attention, c'est important pour les gens de savoir ça, ça peut avoir des conséquences cliniques. Donc, les laboratoires ont une obligation de rapporter ce qui peut être bénéfique au plan clinique, sinon, c'est pas éthique. Donc vous aviez là deux positions assez radicalement opposées. Alors qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Le président a auprès de lui une commission présidentielle pour l'étude des enjeux en bioéthique. Et il a il leur a demandé de se pencher sur le management, qu'est-ce qui serait éthique dans ce cadre-là, des découvertes incidentes et secondaires dans la clinique, dans la recherche et dans les ventes directement aux consommateurs d'un certain nombre de tests. Et ce n'était pas spécifiquement pour la génétique, là. Parce que vous avez l'imagerie, enfin, il y a plein de cas où vous pouvez générer des informations. Ils ont publié leur rapport en décembre 2013. J'ai aucune intention de vous faire. Oui, ça va être bon. Hein, d'aller à travers de toutes ces recommandations, mais j'en ai copié une qui s'adresse à exactement ce dont on parlait dans le Collège américain de génétique humaine. Et cette commission dit les cliniciens doivent mettre au courant leurs patients que des découvertes incidentes ou secondaires sont possibles, ou même probables, selon les tests qui sont faits. Ils doivent s'engager dans un processus de décision partagée, en fait, faite en commun avec les patients, à propos de ce qui va être le champ, en fait, couvert par ces découvertes, qu'est-ce qui sera communiqué, qu'est-ce qui ne le sera pas. Et les cliniciens doivent respecter la préférence du patient de ne pas savoir. La dernière phrase est importante, c'est-à-dire selon quand même leur responsabilité en face de porter secours aux personnes, mais on voyait la voix du patient qui revenait. Alors ça, suite des opérations, 1er avril 2014, donc on s'approche de la fin là, hein. le collège américain a changé sa recommandation. Et ils ont publié que finalement maintenant il y avait un consensus avec toutes ces discussions qui avaient eu lieu, que je vous ai résumées, que les patients en fait devraient avoir une opportunité de opt-out, c'est-à-dire se retirer, ne pas, de l'analyse de gènes qui pourtant pourraient avoir une utilité médicale s'ils le voulaient quand on faisait le génome entier. Donc c'est là où on en est maintenant, la fin de l'histoire. Et j'arrive à ma conclusion là-dessus, qui est que le big data, donc ces masses de données, re-questionne donc un certain nombre de cadres ou de frontières établies, que la notion de caractère anonyme perd sa solidité comme pierre d'angle de la protection des personnes dans la gestion de leurs données. Or, c'est ça quand même qui est extrêmement dans la législation, où c'est anonyme. Et vous n'avez pas besoin d'appliquer cette législation, ou ce n'est pas anonyme, et à ce moment-là, vous avez un nombre de mesures à appliquer, donc qui peuvent varier selon les cas. Ces changements posent des questions en recherche et posent des questions en clinique. Et la question du droit à connaître ou à ne pas connaître ces données génétiques est effectivement reposée. Donc finalement, ce statut des données génétiques, aussi bien dans le système de santé que dans la société en général, il est un peu mouvant. Et il faut peut-être imaginer d'autres ressorts de la protection de la personne et de ses droits. Et voilà. Alors, comme Nicolas avait commencé en vous disant que je ne travaillais pas toute seule, il y a effectivement une photo de gens de mon équipe avec les noms de ceux qui travaillent plus particulièrement sur les aspects liés aux enjeux éthiques et sociaux de la génétique. Voilà, merci.